Les grands feuilletons de France Culture.
Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne.
Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat.
Je vous prie de m'excuser, Monsieur Stangerson vient d'être cruellement éprouvé à deux reprises. Je m'en voudrais de l'importuner, mais j'estime nécessaire pour faire progresser l'enquête de lui poser au moins une question concernant la clé à tête de cuivre qui ferme le meuble où étaient enfermés les documents volés.
Que voulez-vous savoir, Monsieur Rouletabille ?
Voudriez-vous, Monsieur le juge, demander à Monsieur le professeur Stangerson qui avait la garde de cette clé ?
Mais c'était ma fille, et cette clé ne la quittait jamais, absolument jamais.
Ah, mais voilà qui change du tout au tout l'aspect des choses, et qui ne correspond plus avec la conception de M. Rouletabille, car enfin, si cette clé ne quittait jamais Mlle Stangerson, l'assassin l'aurait donc attendue dans sa chambre cette nuit-là. Et dans ces conditions, le vol n'aurait eu lieu qu'après la tentative d'assassinat.
Puissamment raisonné, mon cher de Marqueuil.
Oui. Mais après cette tentative, il ne pouvait pas voler les documents qui se trouvaient dans le meuble bibliothèque du laboratoire, puisque quatre personnes se trouvaient justement présentes devant le laboratoire. Oui, décidément, je n'y comprends plus rien. Plus rien du tout, c'est insensé, je comprends.
Et pourtant, monsieur le juge, le vol ne peut avoir eu lieu qu'avant l'agression. Ça, c'est indubitable pour la raison que vous croyez et pour d'autres raisons que je crois. Et quand l'assassin a pénétré dans le pavillon, il était déjà en possession de la clé à tête de cuivre.
Enfin, monsieur Rouletabille, ce n'est pas possible.
Si, monsieur le professeur. Et en voici la preuve. Voilà. Vous avez devant vous un numéro de mon journal, l'époque, daté du 21 octobre. N'oublions pas que le crime a eu lieu dans la nuit du 24 au 25.
Hein? Oui.
Je lis, rubrique des petites annonces. Il a été perdu hier matin dans les grands magasins du Louvre. Un petit sac de satin noir contenant divers objets, dont une petite clé à tête de cuivre. Forte récompense est promise à la personne qui la rapportera au bureau de poste numéro 40, poste restante, dans une enveloppe portant mention M-A-T-H-S-N.
Et cela veut dire quoi, selon vous ?
Ces lettres désignent à l'évidence Mademoiselle Mathilde Stangerson. Cette clé à tête de cuivre, n'est-elle point cette clé que voici ? Que voulez-vous, je lis toujours les petites annonces. Dans mon métier, comme dans le vôtre, monsieur de Marquet, il faut lire les petites annonces personnelles. Ce qu'on peut y découvrir d'intrigue, et de clé d'intrigue, qui ne sont pas toujours à tête de cuivre, mais qui n'en sont pas moins intéressantes.
J'aimerais, cher monsieur Rouletabille, que vous nous entreteniez clairement de vos recherches.
Eh bien, écoutez, reprenons cette annonce. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le mystère dont s'entourait cette femme. Elle avait perdu une clé. Bon, c'est un objet peu compromettant, s'il en est. Et pourtant, comme elle y tenait à cette clé. Forte récompense. Et puis ces lettres. M-A-T-H-S-N. Les quatre premières révélaient tout de suite un prénom. Bon. Et le 21 octobre, j'avoue n'avoir pas su quoi penser des deux dernières. Mais lorsque 5 jours plus tard, les journaux, dont le mien, titrèrent sur d'énormes manchettes « Tentative d'assassinat sur Mathilde Stangerson au château du Glandier », alors là, tout se remet en place dans ma tête et je me rendis au bureau 40, poste restante.
Bonjour, bonjour, madame.
À quel sujet ?
Voilà, je voudrais savoir si vous avez une lettre adressée à M-A-T-H-S-N.
Non.
Ben, comment non ? Comment pouvez-vous dire ? Vous n'avez même pas regardé.
C'est non quand même.
Ah bien. S'il vous plaît, madame. C'est très important, permettez-moi d'insister.
On peut dire que vous êtes crampon, vous. Je vous dis qu'il n'y a plus de lettres. C'est sûr, elle est venue ici, mais je l'ai donnée il y a 3 jours à une dame qui me l'a réclamée.
Ah.
Aujourd'hui, c'est vous. Et avant-hier, c'est un homme qui est venu me la réclamer aussi. Oh, il était moins poli que vous, c'est sûr. Enfin, quand même, moi, je commence à en avoir assez de cette blague.
Mais hélas, je crains qu'il ne s'agisse pas d'une blague, madame, comme vous dites. Auriez-vous la gentillesse de me décrire les personnes qui sont venues réclamer cette lettre ?
Vous êtes de la police ?
Ah non, bien sûr que non.
Alors, moi, j'ai rien à vous dire. Et puis, dégagez le guichet, s'il vous plaît. Il y a des gens qui attendent.
Très bien. Voilà, vous savez tout.
Donc, pour voler les documents, l'assassin avait besoin de cette clé. Et pour la posséder, il lui fallait tuer Mathilde Stangerson.
Pour autant que Mademoiselle Stangerson ait eu la clé à cet instant. Or, d'après ce que je viens de vous dire...
Mais qui voulez-vous qu'il ait, si ce n'est elle ?
L'assassin, tout bêtement.
C'est impossible.
Ingénieux, mon cher Rouletabille, mais peu vraisemblable.
Et pourtant, ma démonstration est sans faille.
Il peut également s'agir d'une coïncidence frappante.
Non, je ne le crois pas. Qui est cette femme qui a récupéré la lettre ? Qui est l'homme qui la voulait également ? Moi, bien sûr, je suis arrivé trop tard. Alors,
l'explication est simple, messieurs. Il est certain que ma fille aura perdu sa clé et son petit sac, n'aura pas voulu m'inquiéter. Et c'est pourquoi il y a eu cette annonce.
Pardonnez-moi, professeur. Tout à l'heure, lorsque vous avez découvert le vol, vous vous êtes écrié « Encore une fois, je suis volé ». Ce n'était donc pas la première ?
Non. Bon, la première fois, ce fut à Philadelphie, il y a de nombreuses années.
Puis-je vous demander quelle était la nature du vol ?
On a volé dans mon laboratoire privé 2 inventions que je tenais secrètes et qui auraient pu favoriser grandement l'essor économique d'une nation.
Qu'avez-vous fait ?
Je n'ai jamais su qui était le voleur, mais je n'ai plus entendu parler de l'objet du vol, car pour déjouer les calculs de celui qui m'avait honteusement pillé, j'ai lancé moi-même ces 2 inventions dans le domaine public. Je perdais le fruit de mes inventions, le voleur, lui, n'y gagnait rien. Depuis cette époque, je suis devenu très soupçonneux, aussi je m'enferme hermétiquement quand je travaille, d'où les barreaux de ces fenêtres, l'isolement du pavillon, ce meuble que j'ai fait construire moi-même, cette serrure spéciale et cette clé unique. Tout cela est le résultat de mes craintes inspirées par une triste expérience, messieurs. Ou craint-on moins le vol si ce n'est dans une prison ?
Intéressant.
Et vous n'avez pas eu de nouvelles du petit sac de satin noir ?
Aucune. Vous pourrez poser la question à ma fille.
Toutefois, vous pouvez nous dire si elle s'est rendue à Paris le 23 octobre.
Elle est retournée à Paris. Et la première fois, le 20 octobre, elle était accompagnée de Robert Darzac.
C'est exact, monsieur Darzac ?
Parfaitement exact. Et depuis le 20 octobre, je ne suis pas revenu au château.
Pensez que nous vivions cloîtrés, ma fille et moi, et que cela n'a rien empêché.
Entrez.
Je ne voudrais pas être importun, monsieur le juge.
Du tout, monsieur Larson, du tout. Entrez.
Je vous apporte les chaussures de l'assassin.
Oh, ça, pas possible.
Vous les reconnaissez, Père Jacques ?
Ah ben, ça, par exemple. Mais c'est des vieilles chaussures à moi. Oui, que j'avais mises au rebut dans un coin du grenier. Ah ben, vous parlez d'une surprise.
Pardon. Vous pouvez me montrer ce mouchoir ?
Je veux bien. Je m'en suis déjà servi.
Ah, non, mais aucune importance. Eh bien, voilà un mouchoir qui ressemble étonnamment Un celui que nous avons trouvé dans la chambre jaune.
Oui, ben je sais bien. Oui, mais qu'est-ce qui ressemble le plus à un mouchoir si c'est pas un autre mouchoir, hein?
Et pour conclure, le vieux béret basque trouvé également dans la chambre jaune. Il aurait très bien pu coiffer la vieille tête du père Jacques.
Eh ben si, oui, c'est vrai ce qu'il dit.
Mais oui.
Et j'en ai un tout pareil. Dis, mais sacrément, un petit bonhomme.
Non, mais précisez votre pensée, monsieur Larsan.
Eh bien, messieurs, tout ceci prouve, selon moi...
Alors, remettez-vous, père Jacques.
Tout ceci prouve que l'assassin a voulu déguiser sa propre personnalité.
Il l'a fait d'une façon assez grossière, ou du moins qui nous paraît telle, parce que nous sommes sûrs que l'assassin n'est pas le père Jacques. Mais, puisqu'il n'a pas quitté le professeur Stangerson. Mais imaginez que ce soir-là, le professeur n'ait pas prolongé sa veille et ses travaux. Qu'après avoir quitté sa fille, il ait regagné le château, que Mathilde ait été assassinée alors qu'il n'y avait plus personne dans le laboratoire, et que le père Jacques dormait dans son grenier. Eh bien, messieurs, il n'aurait fait de doute pour personne que le père Jacques était l'assassin. À celui-ci ne doit son salut qu'au fait que le drame a éclaté trop tôt. L'assassin ayant cru, sans doute à cause du silence qui régnait dans le laboratoire, que ce dernier était vide et que le moment d'agir était venu.
Monsieur Larsan, vos déductions sont aussi brillantes que celles de monsieur Rouletabille. Mais où cela nous mêle-t-il?
L'homme qui a pu s'introduire aussi mystérieusement que facilement ici est, à n'en pas douter, un familier de la maison. À quelle heure exactement s'est-il introduit? Dans l'après-midi, dans la soirée? Je ne saurais apporter là-dessus la moindre précision. Je dis simplement qu'un être aussi familier des choses et des gens a dû pénétrer dans la chambre jaune à l'heure qu'il a voulu.
Oh, oui, mais c'était quand même impossible quand le laboratoire était occupé.
Allez donc savoir. Il y a eu le dîner dans le laboratoire, le va-et-vient du service. Il y a eu également l'expérience à laquelle s'est livré le professeur et la tenue Mathilde Stangerson, le père Jacques et le professeur autour des fourneaux pendant environ une heure. Dans ce coin de la haute cheminée, qui me prouve que l'assassin, un familier, j'y insiste, n'a pas profité de ce moment pour se glisser dans la chambre jaune après avoir retiré ses chaussures dans les toilettes.
C'est hautement improbable.
Puisque vous le dites. Mais reconnaissez que ce n'est pas impossible. Je n'affirme rien. Quant à la fuite de l'assassin, c'est autre chose. Comment a-t-il fait?
Ben oui.
Mais le plus naturellement du monde.
Comment? Que dites-vous, Larsan?
Monsieur le chef de la sûreté, je ne suis pas entré dans la chambre jaune. Mais j'imagine que vous avez acquis la preuve qu'on ne pouvait en sortir que par la porte.
Oui.
Eh bien, c'est par la porte que l'assassin est sorti. Je reconnais. C'est troublant. Mais puisqu'il est impossible qu'il en soit autrement, il faut bien que cela soit. Il a commis son crime et il est sorti par la porte.
Enfin, à quel moment?
Eh bien, au moment où cela devient le plus plausible. Tellement plausible qu'il ne saurait y avoir d'autre explication. Examinons, si vous le voulez bien, messieurs, les instants qui ont suivi le crime. Nous avons, premièrement, l'instant où se trouve devant la porte le professeur et le père Jacques, prêts à lui barrer le chemin.
Oui.
Deuxièmement, l'instant où le professeur est seul, le père Jacques est allé chercher du secours. Troisième instant, le professeur est rejoint par Bernier et sa femme. Quatrième moment, le père Jacques revient. Et enfin, tout le monde est là, on enfonce la porte.
Donc pour vous, monsieur Larsan, si je comprends bien, le meilleur moment est celui où il y avait le minimum de monde devant la porte.
Exactement.
À moins d'admettre la complicité silencieuse du père Jacques. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, car alors, il ne serait pas sorti du pavillon pour aller examiner la fenêtre de la chambre jaune s'il avait vu s'ouvrir la porte et sortir l'assassin. Non, la porte s'est ouverte devant le professeur seul et l'homme est sorti.
Enfin, c'est vraisemblable. Non,
Monsieur. Monsieur, sur mon honneur et sur la tête de ma fille, je jure n'avoir point quitté cette porte de l'instant où j'ai entendu les appels de Mathilde. Je jure que cette porte ne s'est point ouverte pendant que j'étais seul dans le laboratoire et qu'enfin, quand nous pénétrâmes dans la chambre jaune, les domestiques et moi, l'assassin n'y était plus. Je jure également que je ne connais pas l'assassin.
Je pense que nous pouvons arrêter là cette conversation. Je pense également que nous pouvons nous retirer.
Professeur Stangerson.
Oui.
Oui. Moi, je vous crois.
L'article est tout fait, je n'ai plus qu'à l'écrire.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est de vous?
Toujours deux questions en une seule, hein? Bravo. Ben, je réponds. Ça ne veut rien dire du tout et c'est pas de moi.
Bon, alors de qui est-ce?
D'un auteur inconnu, méconnu et parfaitement oublié du début du siècle. Hippolyte Branche.
Ah.
Oui, il mettait un point d'honneur à ce qu'on le considère comme le contraire de Racine.
Il n'a pas dû avoir beaucoup de problèmes. Non, j'ose, vous ne serez jamais sérieux.
Ami, laissez donc, je vous prie, le sérieux, imbécile. C'est leur seule chance de pouvoir s'en tirer. Cela dit, je trouve que le juge de Marquet a innové une nouvelle façon de parler que je trouve très intéressante. Mmh. Ah oui, de Marquet ne comprend rien à cette histoire, mais il a mis en mouvement un processus.
Et vous avez appris des choses intéressantes au cours de cette parlotte incroyable?
Franchement parler, non. Les faits sont ce qu'ils sont. Par contre, les hommes ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent.
Allons bon. Et c'est encore de l'Hippolyte Branche, je suppose.
Non, mon ami, non, c'est pas de l'Hippolyte Branche, c'est tout simplement du bon sens.
Ah.
Et oui, si on accepte les caprices du destin, qui valent bien ceux de Marianne entre nous, ce sont les hommes qui font les faits, hein? Alors, pour connaître les faits, il suffit donc de connaître un peu mieux les hommes.
Installé au château du Glandier, grâce à l'inexplicable hospitalité de Robert Darzac, vous occupez, mon petit Joseph, un poste d'observation de premier ordre. M'indique-moi franchement. À qui vous le devez?
Mon bon maître, si vous voulez vous rendre à la gare d'Épinay-sur-Orge, oui, sans pour autant gâter une superbe promenade à pied par la crainte de manquer le train de Paris, oui, il est grandement temps de partir. Je vous accompagne.
Bon, c'est bien, c'est bien.
Oui, Sinclair, Larsan est réellement très fort.
Ouais, j'ai eu également cette impression.
Ah, il n'a pas volé sa réputation, le bougre. Vous savez comment il est arrivé à retrouver les souliers du père Jacques?
J'avoue que je ne vois pas.
Ah, écoutez bien ça. Près de l'endroit où nous avons marqué les traces de pas élégants, vous vous souvenez, et la disparition de l'empreinte des chaussures grossières,
oui,
eh bien, il y avait un creux rectangulaire dans la terre fraîche et qui attestait la présence récente d'une pierre.
Oui.
Or, Larsan n'a pas trouvé cette pierre. Et il a imaginé tout de suite qu'elle avait servi à l'assassin pour maintenir au fond de l'étang les souliers dont il voulait se débarrasser.
Mmh.
Ah, Marquet, son calcul était excellent et le succès de ses recherches l'a prouvé. Et voilà, et disons qu'à moi, ça a échappé. Je me méfiais de tous les faux indices laissés derrière lui par l'assassin pour faire retomber les soupçons sur le pauvre père Jacques. Mais enfin, bref, voilà. Sommes arrivés, Larsan et moi, aux mêmes conclusions, seulement maintenant, nous ne sommes plus d'accord. Et ça risque d'être terrible, car Larsan, de bonne foi, s'en va tout droit à l'erreur. Et alors là, je ne possède absolument rien pour le faire changer d'idée.
Vraiment ? Rien du tout ?
Rien, mon bon Sinclair. Mais est-ce vraiment rien que de combattre avec l'idée ?
J'ai rien entendu.
Non, et vous ?
On aurait dit comme des sortes de gémissements, des gémissements étouffés.
Attendez, chut. Laissez-vous une seconde, Sinclair. Ouais.
Notre mariage est impossible maintenant.
C'est la voix de Mathilde Stangerson, ça. Nous sommes sous sa fenêtre.
Oh,
écoutez.
Robert.
Ah oui, cette fois, j'ai entendu.
Robert.
Qu'est-ce qu'elle a dit ? Pauvre Robert. En clair, ça veut dire pauvre Darzac, ça. Sinclair, si nous pouvions savoir ce qui se dit dans cette chambre, l'enquête serait pratiquement terminée. Venez.
Mais qu'est-ce que vous voulez faire ?
Une chose très simple. Puisqu'on ne peut pas entendre, nous allons au moins essayer de voir.
Mais qu'est-ce que vous avez encore inventé ? Vous n'avez pas la prétention de...
Mais si, mon ami, justement, j'ai la prétention d'être indiscret. Je vais grimper dans cet arbre et regarder ce que font Mathilde et Robert.
Oh.
Eh bien, oui. D'autant qu'ils se croient seuls. Mais je sais, ça n'est pas conforme au canon d'une enquête normale, mais...
Mais disons que c'est pas joli, joli.
Oh, Sinclair.
Ouais.
Restez digne, l'assassin fera le reste.
Oh.
Montez donc, mon jeune ami. Vous attendez.
Je vous en prie, monsieur Larsan, vous étiez là avant moi.
Alors, ne soyez pas bête. Oui, alors redescendons tous les deux.
Eh ben,
pour une surprise, c'est une surprise.
Bonjour, maître Sinclair. Malicieux, notre ami Rouletabille. Hein? Il a eu la même idée que Frédéric Larsan.
Nous avons vu la même chose. Rien ne dit que nous en avons tiré la même conclusion.
Où je me trompe fort, Robert Darzac est maître en hypocrisie.
Mais pourquoi ?
Il suffit de l'avoir vu au genou de Mademoiselle Stangerson pour en être convaincu. Cet homme possède un art diabolique pour feindre les sentiments.
Comment pouvez-vous dire une chose pareille ?
Oui, Robert Darzac a toujours dit, clamé son amour et son attachement pour Mathilde Stangerson.
Cher Rouletabille, vous êtes, à n'en pas douter, très intelligent. Mais votre jeunesse, comment dire, vous dessert dès lors qu'il s'agit de juger des sentiments complexes de l'homme mûr. Bien, séparons-nous là. Voulez-vous ?
Très volontiers. Monsieur Larsan.
Je vous écoute.
Arrive-t-il aux hommes mûrs d'oublier leur canne dans un arbre ? Il vaudrait peut-être mieux que l'on ne sache point qu'ils s'y sont trouvés.
Ah non, d'un petit bonhomme. Ma canne. Ah, ça alors. Merci, Rouletabille.
Je vous en prie. À propos, avez-vous remarqué cette canne, Sinclair ?
Non, ça ne m'a pas frappé.
Ah, c'est une canne neuve que je ne lui ai jamais vue avant. Elle a l'air d'y tenir comme à la prunelle de ses yeux, il ne la quitte pratiquement jamais. On dirait même qu'il a peur qu'elle tombe entre des mains étrangères. Où a-t-il bien pu trouver cette canne-là ?
Écoutez, José, vous faites subitement bien des embarras à propos d'une simple canne.
Ouais, c'est que j'avais encore jamais vu Frédéric Larsan avec une canne. Or, il donne l'impression de ne plus pouvoir s'en passer. Vous vous souvenez de notre arrivée au château du Glandier ?
Pas comme si c'était hier.
Bon, quand Frédéric Larsan nous a aperçus, il a remis sa montre dans sa poche et a ramassé sa canne qui était sur le sol. C'est un geste naturel auquel je n'attachais aucune importance, sans doute à tort.
Enfin, Joseph, vous venez de dire à l'instant un geste naturel.
Larsan est arrivé au Glandier avant nous. Il a commencé son enquête tout de suite et il a dû prendre quelques distances sur nos investigations. Il a eu tout le temps d'apprendre des choses que je ne sais pas. Et de voir, d'entendre, où a-t-il trouvé cette canne ?
Mais j'en ai pas la moindre idée.
Il est indéniable que ses soupçons se portent sur Robert Darzac. Pourquoi ? Comment ? Il doit posséder, toucher quelque chose qui le renforce dans cette idée. Et si c'était cette canne ? ... clair, je ne sais pas si c'est mon amour romantique qui reprend le dessus, mais cette petite gare d'Épinay-sur-Orge, c'est un vrai délice.
Ouais.
Monsieur le chef de gare. Monsieur le chef de gare.
Oui, monsieur.
Le train pour Paris, s'il vous plaît.
Quai A, vous y êtes. Dans quelques minutes.
Merci. Permettez-moi de vous féliciter pour le coup d'œil. Cette petite gare est charmante, très bien décorée. Vraiment, vous auriez la même chose à Paris.
Je ferai des affaires d'or. Oui, je sais, monsieur Alphonse Allais m'a déjà dit la même chose.
Eh ben voilà ce que c'est que de vouloir emprunter aux grands humoristes.
Néanmoins, mes félicitations sont sincères. Merci, monsieur le chef de gare.
Rouletabille. Rouletabille.
Oui, monsieur Larsan.
J'ai retrouvé ma canne.
Ah!
Ah! Oh ben je vous demande pardon, monsieur, mais je regardais derrière moi et malencontreusement. Je...
Eh ben, mon bon maître, que vous arrive-t-il?
Bah, il m'arrive que les employés de cette gare sont nettement moins éduqués que leur chef, ça c'est vrai. Je viens de heurter un préposé, je lui présente mes excuses et puis il file sans dire un mot. Si j'avais su, tiens, je lui aurais tiré la barbe. Une jolie barbe blonde, ma foi.
Une barbe blonde?
Oui, oui, parfaitement.
Oh, heureux que vous n'en ayez rien fait, mon cher maître, cet homme. Qui est censé appartenir à la Compagnie des chemins de fer français, est en fait un homme à moi.
Ah.
Que je paye pour surveiller les allées et venues des gens connus ou inconnus dans la gare. C'est très précieux.
Vous pensez à tout. Puis-je vous poser une question, monsieur Larsan?
Mais bien sûr.
Nous nous connaissons déjà depuis un certain temps et je vous ai toujours vu vous promener les mains dans les poches. Depuis quand possédez-vous une canne?
Mais c'est un cadeau que l'on m'a fait alors, depuis.
Un cadeau récent?
Et je pense bien, on m'a offert cette canne. Quand j'étais à Londres.
Ah, c'est vrai, j'avais oublié que vous entriez des bords de la Tamise. C'est indiscret de jeter un regard sur cette merveille.
Oh, mais pas du tout, tenez, voilà l'objet.
Ah, oui, oui, oui. Les Anglais m'étonneront toujours.
Ah oui, pourquoi?
Parce qu'on vous a offert à Londres une canne française.
Non.
Mais comme je vous le dis.
Bof, c'est bien possible.
Tenez, regardez la marque. Cassette 6 bis, avenue de l'Opéra.
Ah, mais vous avez raison. Remarquez, on fait blanchir son linge à Londres. Pourquoi les Anglais n'achèteraient-ils pas leur canne à Paris?
Mon bon Sinclair, je vous accompagne à votre compartiment.
Oui. À bientôt, monsieur Larsan.
À bientôt, mon jeune ami. Au revoir, maître.
Au revoir, monsieur Larsan.
Voici votre compartiment. Ouais. Allez, grimpez.
Bien.
Attention. Voilà.
On se voit bientôt?
Très bientôt. Vous avez retenu l'adresse pour la canne.
Ah oui, oui. Cassette, 6 avenue de l'Opéra.
C'est ça.
J'y serai demain à la première heure et je vous envoie un mot. Hein.
Quand je disais que vous étiez un collaborateur irremplaçable.
Joseph?
Oui.
Vous êtes un pitre. Mais je vous aime bien.
C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe Derez. Aujourd'hui, 10e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe Derez, Darzac, Michel Rull, Larsan, François Mestre, le père Jacques, André Weber, le professeur Stangerson, André Valmy, Dax, Marcel Charvet, la postière, Michel Amiel, le chef de gare, Georges Lucas. Bruitage Louis Amiel. Groupe de réalisation Arlette Adrian, Daniel Cocol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierne.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 12 août 1983. Vous pourrez le réécouter en ligne ou le télécharger à la rubrique de l'émission. À suivre.